Moi, c'est André de Mbujima, locataire oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Le Fonds commun pour le Congo, FCC et CAP pour les changements, CASH, sont devenus officiellement la coalition au pouvoir en RDC et ont annoncé un gouvernement des 65 membres. L'équipe sera composée de 48 ministres et 17 vice-ministres. Cet accord de coalition prévoit aussi des principes qui vont guider le Premier ministre pour former le futur gouvernement. Par ailleurs, un comité de suivi paritaire veillera au respect des dispositions prises par les négociateurs. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 63 30 ou encore au 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct. Toute équipe est là pour vous tenir compagnie. William Lungamba à la mise en onde, Pierre Lamegi à la réalisation de ce programme supervisé par Martin Sebujangwe et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Julien Paloukou, Kayonga, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Vous êtes député national et cadre du FCC. Nous avons tous suivi l'actualité. La décision qui sanctionne les négociations entre le FCC et le CASH a été annoncée lundi 29 juillet dans la soirée par le représentant de deux regroupements politiques. Alors cet accord énumère les principes adoptés lors de discussions. Quel est le sens à donner à ces principes?
Merci beaucoup. Je crois que le peuple congolais doit se réjouir d'avoir finalement un accord entre les FCC et les CASH, parce que, comme vous le savez, l'on craignait effectivement ce qu'on appelle la cohabitation, avec les risques que dans la cohabitation, le président est presque dans une posture antagoniste avec le premier ministre qui forme lui-même les membres du gouvernement. Comme ça a été à l'époque en France, je crois vers les années 86-88, entre Mitterrand et Chirac, et puis en 93-99, je crois, entre Mitterrand et Édouard Balladur, ensuite en 97-2002, entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Donc je crois que nous avons évité les pires, parce que nous n'avons pas une expérience beaucoup plus approfondie en démocratie pour voir un président qui n'a aucun ministre au gouvernement. Donc je crois que les deux chefs de coalition, à savoir le président Félix Tshisekedi et le président Joseph Kabila Kabange, ont compris que la jeune démocratie congolaise ne permettrait pas cette cohabitation, ce qui les a poussés effectivement à adopter cette nouvelle forme qu'on appelle coalition politique entre les deux forces. Donc personnellement, je salue l'engagement des deux chefs de file de cette coalition pour avoir sauvé la République démocratique du Congo, parce que la solution médiane, à mon avis, c'est effectivement cette coalition.
Alors, si on doit scruter ces principes adoptés lors des discussions, on parle premièrement de l'effectivité de la coalition pour gouverner ensemble. Mais ce n'est pas un secret, c'est un secret des polichinelles, parce qu'on les savait déjà qu'ils étaient en coalition. Pourquoi attendre pendant longtemps pour venir affirmer ou confirmer l'effectivité de cette coalition?
Oui, je viens de le dire tantôt, lorsqu'il confirme cette coalition, c'est à la suite des négociations. Vous savez que au regard de la majorité parlementaire qu'a les FCC, eh bien, les FCC avaient droit d'avoir les 100% des membres du gouvernement. Et donc, on est allé en discussion depuis le mois de février jusqu'aujourd'hui, ce qui a abouti à une proportion, lorsque vous voyez les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure, 65 membres du gouvernement, dont 42 pour les FCC, et 23 pour les CASH, ça vous donne une proportion de 65% pour les FCC et 35% pour les CASH. Ça veut dire qu'il y a eu donc des évolutions, il y a eu des concessions. Les FCC est passé de 100% à 65% en concédant les 35% aux CASH. Et ça ne peut pas se faire en un jour. Certainement qu'il y a des choses qui ne sont pas encore connues, qui ont été convenues entre les deux forces pour sauver effectivement les pays. Et moi, je crois que le fait d'avoir traîné tout ce temps, c'est effectivement de rassurer le peuple congolais qu'on ne veut pas aller vers la dérive aussitôt que le gouvernement sera mis en place. Je crois que l'ensemble du peuple congolais doit soutenir cette coalition, doit soutenir ce partenariat qui vient d'être scellé et duquel nous attendons le bonheur.
Alors quand des personnes avisées regardent la taille du gouvernement avec 65 membres, tout de suite on se dit un gouvernement budgétivore. Et finalement, on est loin de sortir des sentiers battus parce que tout le monde veut avoir la part du gâteau.
Bon, là, je voudrais quand même un peu nuancer parce que j'aime souvent manipuler les chiffres. Lorsqu'on vous dit que le gouvernement a 65 membres, et le gouvernement n'a pas 65 ministères. Hein, il faut bien dire, vous avez rappelé d'ailleurs, que le gouvernement aura 48 ministres et 17 vice-ministres. Donc, il y a 48 portefeuilles. Les autres sont des vice-ministres. Donc, l'essentiel des ministères que ce gouvernement va comprendre, c'est 48 et non pas 65. Parce que les autres sont en dessous de ces 48-là, à savoir les ministres. Ça, c'est la première chose. De deux, je crois que 48 personnes, c'est parce qu'effectivement, on n'est pas habitué aux chiffres. 48 personnes, à supposer que chacune d'elles puisse avoir, je ne sais pas, à 10 000 dollars, comme ça peut être le cas, je ne pense pas que ça soit ça qui va affecter totalement la République démocratique du Congo, parce que ça vous ferait autour de 400 000 dollars le mois. Alors, c'est parce qu'on n'a pas un budget conséquent qu'on peut estimer que c'est beaucoup d'argent. L'essentiel, et je l'ai dit dans une émission de Radio Okapi, ce n'est pas ces petites dépenses de fonctionnement, ce sont les dépenses d'investissement sur lesquelles le gouvernement devra s'appuyer. Parce que les salaires qu'auront les ministres et même les députés nationaux, c'est pas ça qui peut freiner le développement. Parce que lorsque j'ai évalué les salaires des députés nationaux et les salaires des sénateurs, les salaires des ministres, tous ces salaires mis ensemble, ça ne dépasse pas entre 15 et 20 millions de dollars. Et donc, je crois que là, c'est parce que les gens n'ont pas cette notion de perspective qu'ils croient que c'est ça qui bloque la machine. Ce qui bloque la machine, c'est l'exiguïté de nos recettes. Pour autant que nous n'avons pas suffisamment de recettes, il est impossible d'avoir effectivement un budget d'investissement conséquent pour songer au développement de la République. Donc pour moi, 48 membres du gouvernement, on en a déjà connu avec le gouvernement Mouzito, je crois Gizenga 1 en 2006, ils étaient autour de 66 si j'ai bonne mémoire, ou 62, je peux me tromper. Et donc aujourd'hui, l'important, c'est de savoir quels sont les piliers sur lesquels le gouvernement va axer effectivement ses priorités. Si ces piliers sont clairement définis, si ces piliers rencontrent les attentes de la population, les gens ne verront même pas le nombre de ministres parce qu'ils seront en train de goûter effectivement au travail qui est réalisé par ce gouvernement.
Alors, toujours dans cet accord, parmi les principes adoptés, figure également la création d'un comité de suivi des mesures d'application du programme commun. Voilà, donc est-ce que ce n'est pas une institution de trop ou encore une structure de trop ou encore moins une stratégie de pouvoir faire traîner encore les choses? Parce que si il faut encore se mettre d'accord sur un programme commun, ça va prendre du temps.
Non, je crois que vous n'avez pas bien suivi ou les auditeurs n'ont pas bien suivi. Le programme en main du gouvernement a déjà été adopté. C'est parce que dans la séance du 29 juillet qui a été télévisée, on n'a pas lu tous les documents. Sinon, le programme commun est déjà adopté entre les FCC et les CACH. Il ne reste que la nomination des ministres qui vont devoir l'approuver en Conseil des ministres avant que ce programme ne soit présenté devant l'Assemblée nationale. Le comité de suivi, c'est à l'instar du CENSA. Je crois que ce comité de suivi, à mon sens, vient mettre fin à l'existence du CENSA. Comme le CENSA était en train de suivre l'accord du 31 décembre 2016, et que cet accord n'a plus de raison d'être, ou cet accord n'a plus de raison d'être aujourd'hui, il va être mis en place un nouveau comité qui va veiller effectivement à la mise en œuvre de cet accord de coalition entre les FCC et les CACH, et c'est tout à fait normal pour éviter les dérapages, pour éviter que les uns et les autres ne passent outre ce qui a été convenu dans les différents textes signés conjointement. Donc ce comité de suivi n'est pas là pour adopter le programme du gouvernement, mais c'est de suivre la mise en œuvre de tout ce qu'on s'est convenu entre FCC et CACH pour que dans les 5 ans qui arrivent, il n'y ait pas de couac, il n'y ait pas une crise institutionnelle.
Voilà, nous allons ouvrir les standards pour accueillir les auditeurs qui vont également participer à ces débats. Monsieur le député, nous vous gardons encore en ligne et nous rappelons à ceux qui viennent à peine nous rejoindre que nous allons, on parle de front commun pour le Congo et le CAP pour le changement, ceux qui sont devenus officiellement la coalition au pouvoir en RDC et ont annoncé un gouvernement de 65 membres. L'équipe sera composée de 48 ministres et 17 vice-ministres. Cet accord, comme je l'ai dit, prévoit aussi des principes qui vont guider les premiers ministres, entre autres l'effectivité de la coalition, la formation d'un gouvernement et également la mise en place d'un comité de suivi des mesures. Vous avez suivi les analyses de notre invité, Julien Paluku Kaonga. Quelle est votre réaction? 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Leur quotidien, préoccupations et ambitions, c'est dans 100% jeunes. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi, une émission des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Tous les vendredis à 9h15 et 20h30, le lundi à 13h30.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Maître Timothée, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour.
Quelle est votre réaction, Maître Timothée?
Alors, ma première réaction, c'est que, effectivement, cet accord de coalition nous a fait perdre beaucoup de temps. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans ce pays, survit l'une des plus graves crises économiques et sociales à la suite des élections qui ont été organisées au 30 décembre de l'année passée. Et une grande crise économique, allais-je dire, et qu'on a pris pratiquement 7 mois en train de tergiverser avec tout ce que cela peut avoir comme conséquence sur les vécus quotidiens. J'ai entendu tout à l'heure dire que 48 ministres, ce n'est pas pléthorique, ça ne représente rien par rapport au budget national, mais je crois que on doit être réaliste. 48 ministres et 17 vice-ministères, ça fait quand même 65 et ça fait un poids sur le budget national et on ne peut pas ici penser que cela n'aura pas d'incidence. Je rappelle que le président de la République, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, vers la fin de son mandat, avait lui-même stigmatisé le fait que nos institutions étaient budgétivores et qu'il fallait mettre en place des stratégies pour éviter que le gros du budget ne puisse être consacré, n'est-ce pas, au fonctionnement des institutions. Mais là, je me rends compte qu'on est en train pratiquement de développer une autre théorie, une théorie qui va justement à l'encontre des observations qui ont été faites à la fin du dernier mandat du président de la République. Ensuite, j'ai entendu que là, il est prévu un comité de suivi, mais ce comité de suivi-là, il va fonctionner comme sur le modèle du CENSA. Bon, mais je me dis que peut-être que ce comité de suivi-là sera pris en charge dans son fonctionnement par le front SDC et CACH, et donc il ne va pas impacter sur le budget de l'État. Sinon, ça sera encore une autre charge supplémentaire avec 10, 15 ou 20 personnes privées, mais qui risqueraient d'être prises en charge par le budget de l'État.
Oui, est-ce que Maître Timothée, vous pensez comme ceux qui estiment que ces comités risquent de fonctionner illégalement, comme ce fut le cas avec le CENSA, qui était un cas exceptionnel, qui n'était pas constitutionnel, et il a fallu plusieurs temps, et en tout cas des mois, pour que le CENSA ait une valeur juridique, pour qu'on promulgue même une ordonnance instituant donc le CENSA au regard de son règlement intérieur. Est-ce que nous ne risquons pas? Certaines personnes redoutent que le même cas puisse se reproduire. Avec le comité, c'est le comité de suivi.
C'est exactement cela, mais à la seule différence que le CENSA a quand même été prévu dans un accord politique, qui a mis sur la table de négociation tous les différents acteurs. Donc on peut dire que le printemps Haïti dans un contexte particulièrement différent à celui du contexte actuel. Parce que l'accord SCK n'est pas un accord public, c'est un accord privé qui concerne deux familles politiques qui se mettent ensemble pour gérer les problèmes qui concernent leur famille politique. Et donc, aller jusqu'à créer un comité de suivi qui va fonctionner sur le dos des petits des contribuables congolais, moi je crois que ça traite la tricherie et nous n'allons pas accepter cela. En tant que société civile, nous allons combattre, nous allons souhaiter que ce comité de suivi reste un cadre purement privé qui ne concerne que le cash et les SPT et dans son fonctionnement, seuls les cash et les SPT doivent savoir les supporter ou les prendre en charge. Donc nous, nous pensons que avec l'accord qui a été qui vient d'être formalisé, la société civile doit encore redoubler de vigilance pour éviter que cet accord-là soit considéré comme un accord public, soit considéré comme un accord qui engage tout le monde. C'est un accord qui engage deux
partis politiques, deux formations
ou deux membres d'une famille politique. Mais alors, nous allons aussi veiller à ce que le gouvernement qui est en train de sortir, qui va sortir de cet accord-là, que ce soit un gouvernement qui respecte effectivement les droits de l'homme. Parce que nous avons constaté que pendant les 7 mois depuis la prise de fonction du président Félix Tshisekedi, il y a certaines choses qui ont tendance à évoluer, mais il y a d'autres aussi qui ont tendance à reculer. Je vais citer quelques cas en tant que militant des droits de l'homme. Vous savez, par exemple, que maintenant, on est en train de négocier l'affaire passeport de M. Salomon Idi Kalonda est en train de devenir pratiquement un cas emblématique parce que il y a au niveau de l'État ou au niveau des institutions des personnes qui pensent que étant revêtues de la puissance publique, ces personnes peuvent sans vergogne prendre en otage toute une nation ou violer de manière impunie de droits de l'homme. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, alors que nous...
Alors, maître Timothée, on va quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent, juste une dernière question, hein, pour en fait comprendre un peu votre idée. Est-ce que vous estimez aussi, comme les autres, que les retards qu'ont pris ces négociations pour avant d'annoncer l'effectivité de cette coalition et aussi la mise en place de ces comités, présage une crise latente, une crise politique latente qui ne dit pas son nom?
Oui, mais c'est vrai, quand vous... D'abord, nous sommes dans une situation vraiment sui generis. Sui generis parce que, vous voyez, il y a un président qui est là, mais tout autour de lui, tous ses collaborateurs, au niveau des différentes institutions, sont des personnes issues pratiquement de notre famille politique ou de notre courant politique. Cela présage qu'effectivement, entre les présidents de la République et les autres institutions, il y aura certainement des problèmes. Et bon, tout le monde, tous les analystes savent que le président de la République est sur une chaise pratiquement inéluctable parce que toutes les institutions aujourd'hui sont dirigées par l'FCC. Et donc, le président de la République est obligé de faire beaucoup de concessions pour pouvoir se maintenir au pouvoir pendant les 5 années. Sinon, il serait facilement déboulonné, si vous voulez, sur les termes en vogue, ou même éjecté.
Merci donc beaucoup, maître Timothée, d'avoir appelé de Lubumbashi. Merci beaucoup, maître Timothée, d'avoir appelé pour contribuer dans cette émission. Cet accord, pour vous, nous a perdu uniquement le temps, selon vos propos, et ça doit aussi demeurer dans un cadre purement privé, selon votre souhait. Est-ce que Jacques partage ses points de vue? Jacques, vous êtes avec nous à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Allô, bonjour, monsieur le journaliste. C'est Motanga Tamoni Jacques depuis Kisangani. Par rapport à ce sujet d'aujourd'hui, moi je vais plutôt positionner la population. Parce que cette coalition qui vient de se faire, cet acte, en fait, c'est contrat que FCC tâche, moi j'en félicite. Mais nous, population, nous ne pouvons pas nous soucier plus de cette coalition. Au contraire, nous devons plutôt attendre l'exercice de leur mandat afin de pouvoir sanctionner ceux qui vont diriger. Et par là, je veux dire que ceux qui vont déborder seront sanctionnés par l'UDP. Et en outre, là, je vais plutôt...
Oui, rapidement, Jacques.
Félix Tshisekedi, qui doit avoir des stratégies en vue de ses unités. Car au sein de cette coalition, si si je ne trompe pas, cette coalition donne le pouvoir de veto à toutes les autorités de ces deux partis. Alors, vous ne voyez pas que cette coalition peut causer un retard pour l'exécution d'un ordre, par exemple. Parce que lorsque prenons par exemple un ordre qui doit être exécuté, qui se fait autorise, mais le FCC bloque, ne voyez pas que cela peut causer vraiment un retard.
Merci beaucoup Jacques. Donc, alors Michel, vous êtes à Goma. Michel, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, merci monsieur le journaliste. Moi je crois que par rapport à la coalition CACH, concernant le gouvernement à venir, je ne parlerai pas plutôt de l'ossature de ce gouvernement, mais je parlerai plutôt de l'engagement que les membres de ce gouvernement vont prendre vis-à-vis des peuples. Il ne faut pas que le gouvernement qui va sortir soit un gouvernement dont les membres seront là que pour satisfaire leur famille politique. Hein, FCC, CACH, tout ça. Étant que jeune pro-démocratie, moi je souhaite que le président use de son influence pour que le gouvernement qui va sortir soit vraiment un gouvernement responsable. Par un gouvernement responsable, j'attends les libertés et droits et libertés des citoyens. Par exemple, liberté de manifestation, liberté d'expression, liberté d'aller et venir. Comme vous le savez, déjà, il y a un problème au pays. Il y a le conseiller de Moïse Katumbi qui est forcé en exil. Je voudrais peut-être que le prochain gouvernement, qu'on parle des zéro
exil. Oui, mais Michel, quand le gouvernement va sortir, on va parler des attentes de la population par rapport à ce gouvernement. Mais à ce jour, nous évoquons tous les contours de cette coalition avec les principes qui sont adoptés lors des discussions, les dernières discussions entre les deux plateformes, notamment les FCC et les CACH qui font partie aujourd'hui de cette coalition et où ils ont évoqué l'effectivité, ils ont annoncé ça officiellement, ce qui constitue autrefois une rumeur. Aujourd'hui, c'est connu de tous qu'il y a une coalition et notre premier auditeur a parlé d'un accord qui reste privé et qui doit rester seulement privé. Je crois que c'est à ce niveau-là que s'inscrit notre débat. 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969.
Écho du développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes des solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le samedi à 13h05.
Voilà, nous poursuivons avec vous, Julia Paluku Kaunga, vous êtes avec nous, vous êtes député national et cadre du FCC. Vous venez de suivre Maître Timothée, Jacques et aussi Michel. Alors, c'est dans leurs propos, il se dégage un aspect juridique que j'aimerais bien que vous commenciez par là. Lorsque Maître Timothée demande à ce que cet accord reste purement privé, parce qu'il s'agit de deux partis, de deux plateformes politiques qui n'engagent pas toute une nation.
Oui, merci beaucoup. Ça n'engage pas une nation, mais ce sont les acteurs politiques qui engagent la nation. Lorsque vous avez la configuration de l'Assemblée nationale constituée essentiellement du FCC et du CACH, vous comprenez que sur les 500 députés, nous avons autour, je crois, de 345 députés FCC et 47 ou 49 députés CACH. Ce qui vous donne autour de 390 ou 395 députés. Si on convient avec tous les auditeurs que les députés nationaux représentent le peuple congolais, représentent la nation, eh bien on convient que ces députés-là, lorsqu'ils se réunissent à travers les formations politiques, peuvent signer un accord et ça se passe dans tous les pays du monde. Lorsque nous avons connu l'accord politique du 31 décembre 2016, ce sont les acteurs politiques qui l'ont signé. Aujourd'hui, que ces mêmes acteurs politiques ont estimé qu'il y a un danger pour la nation de vivre une cohabitation, ils ont signé un autre accord politique pour gouverner ensemble, pour mettre en place un gouvernement. Et j'ai eu à les rappeler, le pire qu'on craignait, c'est qu'effectivement nous ayons un président qui n'a aucun ministre dans le gouvernement, et dans lequel cas il s'agirait de la cohabitation. Alors comme votre émission est également pédagogique, Je crois qu'il est important aujourd'hui que le FCC puisse parler à tous ses militants sur le contenu réel de cet accord. Il est important que le CACH puisse parler à ses militants sur le contenu de cet accord. Parce qu'effectivement, lorsqu'on on voit l'architecture politique congolaise, il y a des acteurs qui se comportent comme s'ils sont de l'opposition alors qu'ils sont partie prenante du pouvoir aujourd'hui en place. Donc il est impérieux que vraiment les deux chefs de coalition puissent faire une communication importante à l'endroit de leur base pour que leur base comprenne qu'il y a un accord qui a sauvé l'un ou l'autre pour que nous passions de la cohabitation vers la coalition. Une coalition qui signifie gouverner ensemble. Donc aujourd'hui, l'IDPS, l'INC et tous les partis du FCC sont désormais ensemble pour gouverner la République démocratique du Congo. Donc il faudrait que l'opinion sache que ce soit l'IDPS, que ce soit l'INC, que ce soit les partis du FCC, que l'opinion sache qu'aucun de ces partis ne peut aujourd'hui se comporter en opposition vis-à-vis du pouvoir, parce que c'est eux qui ont l'effectivité du pouvoir au regard de cet accord politique qui vient d'être signé, qui nous donne l'effectivité de la coalition.
Donc si je comprends bien, tous les partis politiques qui ne font pas partie du FCC sont dans l'opposition.
Mais c'est clair, parce que lorsque nous étions à l'Assemblée nationale, nous avons fait acte d'appartenance à la majorité parlementaire. Nous, du FCC, nous avons signé ces actes d'appartenance à la majorité parlementaire. Les CACH, composés essentiellement de l'UDPS et de l'INC, le CACH a signé aussi son appartenance à la majorité parlementaire. Malheureusement, j'ai comme l'impression que la population ne connaît pas que les députés du FCC, du CACH, ont signé un document à l'Assemblée nationale comme appartenant à la majorité parlementaire et non à l'opposition. C'est ça la précision que je voulais donner à l'opinion congolaise.
Voilà. Donc, le fait qu'ils aient signé leur appartenance à la majorité, donc ils font plus partie de l'opposition. Désormais, c'est la majorité au pouvoir.
Exactement. IDPS, INC, tous les partis membres du FCC font partie de la majorité au pouvoir et aucun d'eux ne fait partie de l'opposition au pouvoir.
En face d'eux, il y a Lamouka. En face du FCC CACH, il y a Lamouka.
Effectivement, en face du FCC et CACH, il y a autour de 108, 110 députés composés essentiellement des partis politiques membres de Lamouka. Ce sont ceux-là, au terme de toutes nos lois, au terme de la Constitution, qui forme aujourd'hui ce qu'on appelle l'opposition politique congolaise.
Alors, Maître Timothée, en faisant des analyses, redoute également, comme tous les autres, que cet accord, le temps que cela a pris, et aussi la mise en place, la mise sous pied dans les prochains jours, donc la création d'un comité de suivi, présage déjà une crise qui est très latente. Est-ce que vous partagez cet avis, monsieur le député?
Oui, c'est en prévision de la crise éventuelle qu'on a mis en place ce qu'on appelle le comité de suivi de cet accord de coalition. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas ce comité de suivi, on ne saura pas avoir de garde-fous. Parce que nous sommes dans une société humaine où les uns et les autres peuvent chercher à déraper. Qu'il s'agisse de ceux du CACH ou ceux du FCC, il y en a qui peuvent verser dans les dérapages. Alors, pour éviter les dérapages, il faut un garde-fou. Et le garde-fou, c'est effectivement ce comité de suivi. Je crois que le peuple congolais doit s'habituer à vivre avec ces cas de figure. C'est un nouveau cas de figure qui n'a jamais existé et il faudra beaucoup de temps pour que les gens s'y habituent. J'ai tout à l'heure évoqué le cas de la France qui, depuis la 5e République en 1958, a vécu trois types de cohabitation, respectivement, je crois, à 86, à 93 et à 97. Mais là, comme c'est une démocratie qui est beaucoup plus assise, et la France a accepté cette cohabitation-là où le premier ministre formait son gouvernement. Et le président n'avait que le rôle de président de la République. Mais nous ici, c'est un cas de figure nouveau où on voit que si on reste dans la stricte application de la cohabitation, où le premier ministre forme seul son gouvernement, et essentiellement FCC, et le président n'a aucun ministre au gouvernement, ça peut déboucher sur une crise. Donc je crois que c'est cela qui a motivé les deux chefs, et je l'ai dit au départ, à pouvoir penser un nouveau schéma, celui de la coalition, pour qu'ils gouvernent ensemble, pour que le FCC et le CACH aient tous des membres du gouvernement, qu'ils harmonisent les programmes de gestion de la République et qu'ils soient évalués tous au 23 décembre 2023, si c'est cela la date qui sera retenue pour organiser les prochaines élections.
Alors, quelles sont les probabilités selon vous, hein, honorable député, je parle de probabilités, des chances pour que cette coalition que vous appelez ces cas de figure réussisse à 100% ou encore à 90%, si vous voulez, contrairement aux expériences du passé, 1 plus 4, les négociations avec Mobutu, ou Tenika 1 ou Tenika 2, ou encore Palais de Marbre 1, Palais de Marbre 2.
Oui, tout dépend de la bonne foi des acteurs, même si en politique, ce n'est pas toujours la bonne foi. Je crois que le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, est de bonne foi. Il veut montrer de quoi il est capable. Il a une vision qu'il a montrée à la République. Le FCC, qui a la majorité parlementaire également, veut montrer qu'à travers son premier ministre, il peut élever la nation congolaise sous l'autorité du président de la République. Je crois que ces deux acteurs-là sont des acteurs majeurs dans la prévision de la crise qui pourrait éventuellement arriver demain. Et il faudrait vraiment que tous ceux qui seront nommés au gouvernement sachent que nous sommes devant un tournant de l'histoire, nous, la République démocratique du Congo, parce que nous sommes en train d'expérimenter une nouvelle recomposition politique qui n'a jamais existé chez nous. On a connu des présidents qui avaient le total contrôle ou le contrôle total de 100% des ministres, où tous les ministres étaient d'une seule formation, étaient d'une seule famille politique. Mais maintenant qu'il y aura un président qui a 65% des ministres qui ne sont pas de sa famille politique, il faudra beaucoup d'élégance, il faudra beaucoup de doigté de la part et du président, mais beaucoup de souplesse de la part des ministres pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas dans une confrontation, mais qu'ils soient dans un gouvernement avec un objectif commun, celui de rencontrer les attentes de la population, parce que depuis longtemps, la population ne voudrait pas voir les querelles au sein du gouvernement, mais voir ses besoins être satisfaits, être rencontrés.
Je ne dirais pas comme cet auditeur qui nous a écrit, monsieur Julien Paluku, est-ce que cela n'est pas un explosif entre les mains du président de la République ?
Je ne crois pas. La capacité d'un chef, la capacité d'un leader, c'est de savoir gérer les questions difficiles. Lorsqu'on est appelé à être chef, lorsqu'on est appelé à être leader, ce n'est pas pour gérer des questions qui sont déjà toutes faites, toutes résolues. C'est lorsqu'on a en face des problèmes que l'on voit la capacité qu'on a de pouvoir trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc je crois que le président de la République, avec tous les cabinets qui l'entourent, devrait s'armer de beaucoup de courage, de beaucoup de persévérance, de beaucoup d'abnégation, mais également de beaucoup de perspicacité, doublée, à mon avis, de beaucoup de créativité pour devoir gérer cette situation inédite qui n'a jamais existé en République démocratique du Congo. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un appel à l'ensemble du peuple congolais pour soutenir cette coalition, parce que nous ne voudrions pas que, à la suite des comportements individuels, nous puissions sombrer dans une crise institutionnelle qu'on aurait pu éviter par des attitudes citoyennes.
Voilà, nous vous gardons encore en ligne, monsieur Julien Paluku, le temps d'écouter les autres auditeurs qui nous ont rejoints également à ces niveaux du débat. Mardoché, qui est à Guadolité, et Sylvain Abounia. Mardoché, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Bonjour JR et bonjour à tout le monde.
Quelle est votre contribution à ces niveaux du débat?
Merci JR pour la parole. Moi, personnellement, je suis estomaqué de voir le théâtre que les politiciens congolais sont en train de jouer dans notre pays. Si seulement on demandait mon avis de savoir l'existence de cette fameuse coalition, je demanderais à ceux que l'FCC puisse rentrer plutôt dans l'opposition que de laisser la Mouka. Parce que si aujourd'hui nous avons cette taille du gouvernement, ça vient de l'FCC. Parce que l'FCC, avec un nombre élevé de partis politiques, et veut maintenant satisfaire les membres de sa coalition, il crée des désordres pour augmenter la taille du gouvernement. Et puis, à la fin des comptes, quel budget allons-nous, nous avons dans ce pays pour payer tous ces ministres? Et en plus de cela, on va encore créer un comité de suivi. Avec quel budget? Avec quel budget on va payer encore les membres de ce comité de suivi qui vont encore travailler? Parce qu'à la fin des comptes, il faut payer ces gens-là. Ces pays-là sont en train de bloquer. Moi, je suis en train de craindre que les gens du FCC qui n'en veulent pas, qui avaient mis 18 ans au pouvoir de travailler et se transforment directement aujourd'hui en ange pour dire que nous sommes en train de travailler pour le bien du peuple congolais. Je ne suis pas sûr que ces gens-là vont bien travailler.
Donc si je comprends bien, Mardoché, vous voulez dire... Oui, Mardoché, si je comprends bien...
En train de dire,
Oui, Mardoché, oui. Si je comprends bien, vous voulez dire comme cet auditeur que 18 ans après, ils se sont bien coulés, ils se la sont coulés douce, et maintenant, ils veulent compliquer les autres pour qu'ils ne se retrouvent pas comme eux.
Évidemment, évidemment, c'est ça le vrai problème. Il faut laisser, moi je suggérerais c'est que le FCC va d'abord dans l'opposition, se mettre à l'état, regarder comment l'opposition va gérer. Je ne comprends pas, ceux qui ont mal géré pendant 18 ans, va aussi se mêler encore dans les affaires pour compliquer la situation davantage. C'est pourquoi je suggérais ceci. Au lieu de créer encore des comités, c'est inutile de créer des comités, même si on crée des comités de suivi. Ces comités-là n'auront rien à faire parce que la majorité des personnes qui vont constituer ce gouvernement, c'est toujours l'FCC qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, majoritaire au Sénat. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de spécial? Il n'y a rien de spécial qu'ils vont faire et le peuple congolais va continuer toujours à souffrir. C'est ça en tout cas.
Merci beaucoup Bardoché. Alors Sylvain, vous nous avez rejoint. Bonjour Sylvain.
Bonjour Gérard. Je voudrais saluer l'honorable Julien. Mais aussi, je salue mon ami Mardoché. Il faut clairement dire que nous avions un risque majeur si jamais CASH et le FCC continuaient à gérer par cette logique de la cohabitation. C'était très dangereux. Et c'est pour cette raison-là que déjà, dans TEDG, je dois quand même dire que c'est une intelligence politique que nous pouvons reconnaître aujourd'hui à cette coalition. Puisqu'il faut le dire, comme le député Gillet l'a dit, c'est que l'histoire politique de notre pays l'a déjà démontré, c'est que c'est difficile qu'en RDC, et même dans d'autres pays d'Afrique, qu'on vive la cohabitation pour gouverner un État. C'est tellement compliqué. Le député ne l'a pas dit, mais il faut retenir deux ou trois choses. La première chose, c'est que les partis politiques qui ont tenté de cohabiter, tel qu'il a dit, 86 et consorts, n'avaient pas la même doctrine, la même idéologie politique. Et comme vous le savez très bien, nos États sont gérés par des partis politiques qui sont régis par leur idéologie, et d'ailleurs c'est ça ce qui conduit, n'est-ce pas, la politique d'une nation, d'un pays, et c'est confiné dans les partis politiques. La deuxième chose qu'il faut aussi retenir, c'est que lorsqu'on rentre au niveau du sommet de l'État, là nous voyons le président de la République, certainement qu'il est venu d'un parti politique et il a une vision qu'il veut instaurer pour la gouvernance de l'État. Et là encore, lorsque ce président-là a une idéologie qui ne se marie pas avec des gens qui viennent cohabiter avec lui, c'est ce que nous avons connu dans l'histoire de notre petite démocratie, c'est que le plus souvent on rencontrait ce qu'on appelait la scission politique. Où les gens ne s'attendaient pas, c'était des bagarres. Nous avons vu ce qui s'est passé entre Lumumba et Kasavubu. Ça doit nous renseigner. La troisième chose peut-être aussi qu'il faut noter ici, c'est que lorsque vous regardez la sociologie politique congolaise, sincèrement, elle déçoit les gens. Vous allez vous poser des questions, et peut-être je voulais aussi laisser cette réflexion à notre invité, que d'ailleurs je félicite beaucoup de par ses interventions qui édifient toujours. Lorsqu'un fédéraliste se met ensemble avec un unitariste, posons-nous la question, qu'est-ce que nous voulons faire finalement? Bien sûr, c'est ça l'image de notre politique, et pratiquement aussi l'image de ce que nous représentons comme population congolaise en ce qui concerne la politique. C'est un danger, et comme politiciens, nous devons réfléchir très loin pour essayer de faire avancer notre petite démocratie. Toutes les nations du monde se sont développées autour des idéologies, autour des doctrines politiques qu'ils mettent en place et qu'on formalise ça dans la gouvernance de la cité. Ça, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas.
Oui, mais Sylvain, quand vous parlez de fédéraliste et unitariste, vous faites allusion à qui? Le FCC, c'est le fédéraliste, ou le UDPS qui joue le rôle de l'unitariste?
Je ne voudrais peut-être pas vous répondre directement, mais l'invité qui est là, il connaît...
Non, les constats que vous avez faits. Les constats que vous avez faits.
Je peux vous donner l'exemple, par exemple, disons, je peux vous donner un exemple. Le PPRD, c'est un parti unitariste. Mais lorsque vous regardez un parti comme, si je ne me trompe pas, même l'IMC, puisque l'IMC m'a donné avec l'Union des Patriotes Congolais, dont moi j'étais porte-parole, nous avions pu soutenir dans ce pays le fédéralisme. Ça veut dire la décentralisation qui doit donner l'autonomie politique à nos provinces. Aujourd'hui, ces partis politiques vont se mettre ensemble dans une coalition politique. Nous,
c'est une bonne chose. Mais est-ce que la vision sera la même? Puisque j'ai comme inquiétude de compère, c'est que lorsqu'on mettra la machine, et vous avez senti ça même dans l'esprit de l'invité, même dans son expression, c'est que il faut sensibiliser les gens à comprendre que cette coalition doit aider la RDC à avancer. Mais n'oubliez pas qu'il y aura des couacs idéologiques. Et j'insiste sur ça. Monsieur le journaliste, effectivement, cette émission devrait être pédagogique, comme l'invité l'a dit, je le répète. Pourquoi? Au niveau des provinces, et c'est là où je voudrais que vraiment l'invité puisse édifier, puisqu'il dirige un grand parti que je connais, est-ce que les acteurs au niveau des provinces comprennent le sens de cette coalition que fait aujourd'hui les Caches et les FCT? Nous avons des gouverneurs des provinces qui bientôt vont souffrir des carences d'informations, et état de cette coalition FCC-Caches, ils vont se comporter en opposant face à un gouverneur. C'est là où nous connaîtrons des dangers. Ce que j'ai dit, c'est ce qui se passe dans nos provinces, je suis un acteur politique, nous aurons comme risque, si à Kinshasa, cette coalition va réussir, mais à province, nous risquons d'avoir...
Ça risque d'avoir des problèmes. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup, Sylvain. On va passer à Fiston Kisangani. Fiston, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Fiston.
Bonjour, monsieur J.R.
Quelle est votre contribution, Fiston?
Je voudrais de prime abord interpeller à la conscience des acteurs politiques. Certainement, si je ne suis pas acteur politique, je voudrais ici parler du FCC et de cette coalition. Et certainement, ils sont en train de se verser dans des accessoires que de considérer les principales. Les accessoires, c'est quoi? Prenons par exemple le cas de la création de ces comités. C'est un accessoire, parce que déjà, le FCC en soi a plus de 40 ministres, voyez-vous. Et quelle est la raison d'être de ces comités? Parce que moi, j'aurais souhaité à ce que l'on mette sur table la question liée aux droits de l'homme, voyez-vous? Parce que les Congolais sont en train de se faire massacrer, les Congolais sont en train d'être privés de leurs droits élémentaires de se faire octroyer, prenons les cas des femmes, c'est-à-dire là, qui jusqu'à aujourd'hui ne s'est pas rentré dans son pays uniquement parce que les services attitrés refusent de lui octroyer
oui, mais un Fiston, tous ces éléments, notamment
les documents personnels qui passent du voyage et identifier les possesseurs, voyez-vous, monsieur Pierrot. Donc nous devons être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Je crois que l'honorable Julien Palou, que j'ai salué en passant, a essayé d'aborder la question bonne foi, voyez-vous. Il a essayé de parler de la bonne foi quand même, qu'en politique, on ne trouvera jamais de la bonne foi. Moi, j'essaierai d'interpeller la conscience du chef de l'État qui est le garant de la construction, le garant de la nation, qu'il essaye un peu de travailler plus sur l'aspect droit de l'homme, qu'il essaie un peu de voir comment est-ce qu'il peut à lui mettre au premier plan la question droit de l'homme. Voyez-vous, parce que le fait pour les services attitrés de réviser à Salomon au Kalonda son passeport, c'est une violation flagrante d'un droit élémentaire dont jouit tous les citoyens congolais. Voyez-vous, M. Pierrot.
Merci beaucoup, Fiston. Merci beaucoup, Fiston. Nous allons, on va écouter Félicien, mais il est temps de revenir d'ailleurs à notre invité, à Julien Paloukou. Lorsque Sylvain évoque un mariage difficile entre les fédéralistes et les unitaristes, comment vous réagissez-vous, monsieur l'invité?
Oui, je pense que la Constitution a déjà réglé la question du fédéralisme et de l'unitarisme dans notre pays. Si vous lisez très bien notre Constitution, la République démocratique du Congo n'est ni un État fédéral, ni un État unitaire, parce qu'il consacre ce qu'on appelle le régionalisme politique, où il y a un pouvoir unitaire à Kinshasa, mais avec une forte décentralisation en province, et beaucoup de pouvoir au niveau et de l'exécutif provincial et des assemblées provinciales. Donc, il n'est ni fédéraliste ni unitariste, il est entre les deux. C'est cela ce que le constituant a voulu en 2005, lorsque nous avons adopté la constitution par référendum. Donc, il faudrait que les gens de plus en plus s'habituent à ça. J'ai comme l'impression que effectivement, les acteurs politiques et tous les autres ne communiquent pas très bien à la population le mode de gestion de la République démocratique du Congo, qui est un mode d'une forte décentralisation, même si par ailleurs, je suis d'avis avec tous les observateurs que cette décentralisation n'a pas encore été effective, parce que je suis l'un de ceux qui ont toujours dénoncé effectivement les déficits dans la mise en œuvre de la décentralisation. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade. Mais je crois que votre émission d'aujourd'hui, lorsque vous m'avez invité, c'était essentiellement de parler de cette coalition, comment elle va fonctionner. Nous ne sommes pas encore au point de devoir parler de ce que fera le gouvernement. Je crois que nous avons d'abord voulu expliciter qu'est-ce que signifie coalition politique à la différence de la cohabitation qui devait être le cas au stade actuel.
Voilà. Alors, donc, parce que nous sommes en face d'une coalition qui, parfois, ne rencontre pas l'assentiment de tous les Congolais, surtout par rapport à ceux qui estiment que c'est un accord privé. Mais vous l'avez si bien dit, ça engage toute une nation parce que ce sont des acteurs politiques. Par ricochet, ceux-là qui représentent également les peuples, soit au niveau du Parlement ou encore dans d'autres institutions. Mais le débat va encore plus loin. Aujourd'hui, c'est vrai, on a l'impression que c'est le FCC qui prend tout. À un certain moment, il risquerait de bloquer vraiment la machine.
Non, ce n'est pas le FCC qui prend tout. C'est ce que le peuple a voulu. Parce que lorsque vous voyez la configuration de l'Assemblée nationale, eh bien, le FCC a autour de 88% des députés nationaux. Et la Constitution nous dit que la majorité parlementaire se dessine par le nombre de députés qui sont à l'Assemblée nationale et non au Sénat. On n'évalue pas la majorité parlementaire par rapport au Sénat. On l'évalue par rapport à l'Assemblée nationale. Et donc aujourd'hui, le peuple a voulu, par le vote qu'il a effectué le 30 décembre 2018, ce n'est pas Gilles Paluku qui le dit, le peuple a voulu qu'il y ait plus de députés membres du FCC que d'autres. Et c'est cette configuration-là qui dicte effectivement le fait que le FCC soit prédominant. Je vais peut-être être beaucoup plus explicite. Le cas de figure que le peuple a donné à la République démocratique du Congo donne au FCC la possibilité de diriger seul le gouvernement de la République. C'est ça ce que le peuple a montré à l'opinion. En élisant les 345 députés, c'était pour dire c'est vous qui allez diriger la République démocratique du Congo. Alors la coalition qu'il y a aujourd'hui, c'est une sorte de on est en train de passer outre cette volonté du peuple pour dire non, attention, nous ne sommes pas encore suffisamment évalués en démocratie. Si nous laissons les partis majoritaires diriger seuls, il risque d'y avoir des problèmes. C'est le sens des négociations qui ont eu lieu et qui ont abouti à ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui la coalition. C'est pourquoi j'ai dit que ce soit l'IDPS, que ce soit l'INC, ces deux grands partis de la République ont la lourde responsabilité d'expliciter à leurs militants le sens de la coalition en lieu et place de la cohabitation, pour que l'on ne voit pas les militants de l'IDPS ou de l'INC continuer à se comporter comme s'ils étaient dans l'opposition envers les FCC alors qu'ils sont dans les pouvoirs avec les FCC. C'est ça la compréhension que moi je voudrais...
Mais alors quelle est la marge de manœuvre qu'a aujourd'hui le président de la République si jamais un couac se présentait tout au long du parcours?
Le président de la République, c'est lui le garant du bon fonctionnement de la nation, c'est lui qui dirige tous les conseils des ministres. Lorsque vous lisez la Constitution, je crois que c'est à partir de l'article 78, on vous dira que tous les conseils des ministres sont dirigés par le président de la République. Et exceptionnellement, ils ne peuvent l'être par le premier ministre que par délégation du pouvoir. Donc c'est lui qui tient en fait la manette de la République par le pouvoir qu'il a au terme de notre constitution. Donc il n'y a pas, même si c'est le FCC qui a le plus grand nombre de ministres, un pouvoir qui va échapper au président de la République, parce que c'est lui l'autorité suprême, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est lui qui régule effectivement la situation politique de la RDC. Et donc nous devons apprendre à vivre avec ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dû accepter cette invitation, pour que je me livre à cet exercice avec d'autres Congolais, comme j'ai bien suivi Mardoché, Sylvain ou Fiston, qui ont fait des interventions pertinentes.
Voilà. Est-ce que à un moment donné, si jamais il y a une mauvaise coalition, nous ne sommes pas des prophètes des malheurs, il y a cette marge de dissolution du Parlement ou de l'Assemblée nationale?
Oui, ce sont des cas prévus par notre Constitution, mais là c'est en cas de crise. Et la Constitution dit clairement que la dissolution ne peut intervenir qu'après avoir consulté les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, si je ne m'abuse. Donc le président de la République ne peut pas un matin se réveiller et signer une ordonnance de dissolution sans qu'il y ait une crise réelle entre les institutions et sans qu'il n'ait consulté les bureaux de l'Assemblée nationale. Mais on ne peut pas, comme vous l'avez dit, être prophète du malheur. Nous ne sommes pas là pour souhaiter que cela arrive à la République démocratique du Congo. Là où il y a des hommes, certainement il y aura des problèmes, mais la capacité pour les chefs, je l'ai dit, c'est de savoir résoudre tous ces problèmes qui se posent. Dissoudre demain ou après-demain l'Assemblée nationale, ça ne sera pas la solution. Peut-être ça peut être une crise qui ajoute de l'huile sur le feu et embraser finalement la République démocratique du Congo. Moi, je ne souhaite pas qu'on aille sur ce schéma-là. J'ai toujours cru que là où il y a des problèmes, il y a des solutions. Comme aujourd'hui, les acteurs politiques viennent de se convenir sur la coalition politique en lieu et place de la cohabitation. Ça, c'est une intelligence excellente que les acteurs politiques ont eue pour éviter déjà la première crise qui devait avoir lieu en République démocratique du Congo.
Voilà, on va écouter juste en une minute Félicien. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour Félicien.
Bonjour Gérard. Bonjour.
Soyez précis et concis. Vous avez une minute.
Oui, merci beaucoup. Vous avez voulu que les gens n'interviennent pas. Et moi, je vais dire à M. Julien Parot qui est là et qui dit que le peuple congolais doit se réjouir de l'accord et de la coalition et qui est créée par les hommes politiques. Moi, je vais lui dire qu'il interroge sa conscience et que tous les politiciens interrogent leur conscience et pour savoir que le peuple congolais n'a rien à voir dans cette coalition ou cohabitation ou quoi que ce soit, parce que le peuple congolais s'est exprimé le 30 décembre, pas pour ce genre de choses, mais pour l'alternance. Ils voulaient voir l'IDP, ce qu'ils ont longtemps entendu, et Étienne Tshisekedi remplacé par son fils, ils ont longtemps entendu avoir le pouvoir de changer les choses dans ce pays. Ils n'ont pas prévu ça, mais ça, c'est les politiciens qui ont voulu ça. Et jusque-là, nous ne sommes pas sûrs que le président actuel, qui est attendu par le peuple congolais, va atteindre les attentes du peuple congolais dans ce genre de gestion. Donc, il peut tout faire, mais il ne combattra pas les antivaleurs de la corruption, parce que 60 oranges pourries et mélangées avec 20 et les bonnes oranges, quel est le résultat? Et vous pouvez donner la réponse vous-même.
Merci beaucoup, Félicien. Alors, on va terminer avec vous, M. Julien Paloukou. Ce mélange-là, c'est pour Félicien, c'est un mélange poison.
C'est un mauvais exemple. Ici, nous sommes en politique, nous ne sommes pas en biologie. Il faut qu'il distingue la politique de la biologie, qui parle souvent de la génération spontanée ou du darwinisme, ou les moins aptes s'y combent facilement. Ici, nous sommes en politique. Nous avons eu un peuple congolais qui a élu un président qui n'a pas de majorité parlementaire. Nous avons eu un peuple congolais qui a élu 392 députés qui appartiennent aujourd'hui à la majorité parlementaire contre 108 opposants. C'est ce que le peuple a voulu. C'est pas Julien Paloukou qui l'a dit. Je ne fais que vous donner les constats des élections qui ont eu lieu en décembre. Et donc, ces constats-là nous amènent à un cas de figure en République démocratique du Congo qui s'appellerait cohabitation. C'est-à-dire, le premier ministre forme seul son gouvernement. Et c'est pour éviter que le premier ministre ne forme seul son gouvernement avec le FCC qu'il y a eu des négociations qui nous ont amené à cet accord de coalition pour que les CASH intègrent le gouvernement, et l'accord lui a donné 35% des membres du gouvernement. Donc, apprenons à vivre avec ça. Je crois que laissons le temps au temps pour voir comment les acteurs politiques vont évoluer, et nous serons en train d'évaluer chaque année la manière dont la coalition est en train de vivre et rencontrer les attentes de notre population.
Julien Paloukou Kayonga, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour échanger sur cette question de la coalition entre les FCC et le CASH qui devient finalement effective et qui définit d'ailleurs quelques principes qui vont guider le Premier ministre pour former le futur gouvernement. Une fois encore, merci de votre disponibilité et à très bientôt. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On se retrouve demain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Mais d'entrée de jeu, je souhaite déjà à tous les parents bonne fête.